भगवते
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जय श्री प्रभुपाद की जय।
चाय
S'il te plaît, dis.
numéro un, où est-ce que j'ai commencé là?
Ouais, allons-y.
OK. Association inestimable. Telle est la façon de sortir des ténèbres de l'ignorance. Le monde spirituel baigne dans la lumière émanant du corps irradiant du Seigneur. Le Seigneur répond à la pureté de ses dévots en se révélant à eux en termes de leur abandon entier à lui. La Bhagavad Gita 4.11 l'affirme comme suit. Yayata mam prapadyate tamstatya va bhajami aha mamma vartma nuvra vartate manusya parta sarvasa. Mot par mot.
Oui.
Yé, tous ceux, yata, comme ma, comme mam, à toi, prada, yatyate, s'abandonner, tan, eux, tatya, ainsi, eva, certes, pajami, récompense, aham, je, mama, ma, vartma, voix, anuvarta, te, suivant, manusia, tous les hommes, parta, au fils de parta, sarvasa, à tout égard. Quoi qu'ils fassent, tous suivent ma voie, au fils de prata, et selon qu'ils s'abandonnent à moi, et proportion, je les récompense. J'en ai reporté. Sous ces différents aspects, c'est Krishna que tout le monde recherche. Dieu, la personne suprême, est partiellement réalisé sous deux aspects. Le Brahma Yoti, la radiance impersonnelle qui émane de son corps, et le Paramatma, l'âme suprême, est omniprésent qui réside en tout être et en toute chose, y compris dans les particules atomiques. Il n'est pas contre pleinement réalisé que par ses purs dévots. Krishna est donc pour tous l'objet de la réalisation spirituelle et chacun le perçoit sous l'une ou l'autre de ses formes selon son désir de le connaître. Okay. Dans le monde spirituel également, Krishna répond à l'amour de chaque dévot en tenant le rôle que ce dernier attend de lui. Certains veulent voir en lui le maître suprême, d'autres leur ami intime, leur fils ou leur amant. Krishna se donne à chacun d'eux également et également, selon l'intensité de l'amour qu'on lui porte. Et l'on retrouve ces mêmes échanges entre Krishna et ses différents dévots dans l'univers matériel. Tous les purs dévots, tant ici-bas que dans le royaume spirituel, jouissant de la compagnie du Seigneur et le servent en personne, trouvant dans ce service d'amour un bonheur transcendantal. Krishna aide également les impersonnalistes qui souhaitent commettre le suicide spirituel en y allant leur existence individuelle en les absorbant dans la radiance éminente de sa personne. Mais comme ils refusent d'accepter sa personnalité éternelle et bienheureuse, ils ne peuvent, une fois leur individualité perdue, goûter la félicité qu'on éprouve en le servant avec amour. Certains, même n'étant pas encore suffisamment fixés dans la réalisation impersonnelle, retrouvent dans le monde afin d'y laisser s'exprimer leur désir latent pour l'action. Ils n'ont pas accès aux planètes spirituelles, mais se voient à nouveau offrir la possibilité d'agir dans l'une de, ou l'autre des planètes matérielles.
Bon, encore.
Quant à ceux qui désirent jouir du fruit des devoirs prescrits, le Seigneur qui est Vaisnesvara, le maître de tous les sacrifices, leur accorde les résultats escomptés. Il octroie également aux yogis le pouvoir surnaturel qu'ils convoitent. En d'autres termes, chacun, pour ce qui est le fruit de son labeur, dépend de la miséricorde de Dieu. Les diverses méthodes de réalisation spirituelle ne sont que différentes étapes sur une même voie. Et à moins que nous réussissions à atteindre la perfection ultime de la conscience de Krishna, nos œuvres resteront inachevées. La Srimad Bhaktivedanta 2.3.10 confirme cette paix. Akama Sarva Kamova Moksa Kama Udara Di Ti Rena Bhakti Yogena Yajata Purusam Param. Que l'on n'ait aucun désir comme les dévots, qu'on veuille jouir des fruits de l'acte ou l'on recherche la liberté, on doit de tout cœur adorer Dieu, la personne suprême. On atteindra alors la perfection dont l'époque est la conscience de Krishna.
Jai, merci beaucoup. Omigyana tikalandasya gilanjana sanakaya chaksurun militam lina tasmai shigurave nama. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Ben, je vois que le but, c'est d'être conscient de Krishna, veut dire, et de le servir avec amour.
Exactement. Et Krishna réciproque en conséquence. Alors, c'est la beauté de la conscience de Krishna qui veut que il n'y a pas de fin. Une fois que ça commence, c'est simplement un éveil. Parce que la conscience de Krishna, c'est naturel. C'est dans le cœur tout le temps. Dans le cœur, disons, des êtres vivants, parce que tous les êtres vivants ont une relation avec Krishna, mais parfois, cette relation-là est dans un état endormi. Et à d'autres moments, lorsque ça devient éveillé, oups, ça refait surface. Et c'est complètement transcendantal. Transcendantal veut dire c'est sur la plateforme de l'éternité. C'est pas au niveau mondain, ça. Comme Prabhupada explique, il y a une différence entre une foi, F-O-I, la foi, une fois, Prabhupada dit ça, c'est une confession religieuse. Ça peut changer. Alors, quelqu'un peut être chrétien un jour, un peu plus loin dans sa vie, il change pour une autre religion, islam ou d'autres. Ça peut changer. Mais le Sanatan Dharma, ça ne change pas. Ce sont les activités naturelles de l'âme spirituelle. Et n'importe qui peut pratiquer le Sanatan Dharma ou la conscience de Krishna et puis évoluer là-dedans, dans le Sanatan Dharma. Et pour arriver justement à une de ces bonnes journées, à servir Krishna purement, selon la relation souhaitée par le dévot de Krishna. Il y en a qui veulent une relation neutre avec Krishna, il y en a qui veulent une relation de serviteurs, d'amis, de parents ou amants, amantes avec Krishna. Mari et femme avec Krishna aussi, c'est considéré l'amour conjugal avec Krishna. Et tout cela est possible par la grâce de Krishna. Krishna est réciproque, c'est incroyable. C'est inconcevable. Quand on pense que Krishna danse avec des centaines, des milliers même de gopis, et chacune pense que Krishna est tout seul avec elle. C'est incroyable.
C'est comme à Dwarka, quand il y avait 16 000 épouses, et 16 000 se pensaient chacun comme la spéciale.
Exactement. Chacune se pensait, ah, c'est elle qui est, comment on peut dire, qui a conquis le cœur de Krishna, qui est vraiment l'épouse par excellence de Krishna, mais c'est pas un fait. Donc, d'après l'explication des Écritures, Krishna est réciproqué avec ces reines-là. Et dans chaque château que Krishna avait, c'était différent. Krishna faisait différentes activités aussi. C'était pas que Krishna faisait toujours, c'était pas une répétition automatique. Il fait quelque chose dans un, puis ça se répercute dans tous les autres châteaux qu'il avait, non? C'était comme si Krishna était là, juste une personne, puis il fait ses affaires. Puis ça s'en va comme ça. Alors ça, c'est extra.
Alors, comme chacun.
Oui?
Chacun de nous a une différente personnalité. Alors Krishna, veut dire, va être selon notre personnalité. C'est comme nous, avec chaque ami, qui sont différents de chacun. On est différent avec chacun aussi. C'est un peu ça, non? C'est comme avec vous, j'ai une attitude, mais avec un autre ami, une autre attitude. On s'adapte à la fréquence de l'énergie d'individu. Alors, Krishna, lui, il vient à rentrer dans nous selon notre énergie, comme c'est écrit, selon qu'est-ce qu'on donne, notre amour, notre intensité. Krishna vient avec cette énergie-là sur nous, non? Genre.
Oui, exactement. Krishna connaît notre cœur de fond en comble, probablement même mieux que nous-mêmes, et réciproque en conséquence. Et une des beautés aussi de la conscience de Krishna, c'est que Krishna voit qu'est-ce qui est bon et moins bon ou pas bon du tout dans notre cœur et va s'arranger pour purifier tout ce qui est de mauvaise augure. Alors, plus le temps passe, plus un dévot se purifie par la grâce de la puissance du service de dévotion. Alors, ça aussi, c'est vraiment... Parce que le service de dévotion, c'est l'énergie interne de Krishna. Le service de dévotion n'est pas différent de Krishna aussi. Alors, tout ce qui est de mauvais augure, ça disparaît dans le cœur du dévot. Et c'est une prière que l'on chante avant chaque lecture du Srimad Bhagavatam. C'est dit justement tout ce qui est Nasta Priyeshu Abhadreshu Nityang Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Tout ce qui est de mauvais augure est éliminé dans le cœur d'une personne qui écoute avec attention, avec respect, régulièrement le Srimad Bhagavatam. C'est la grâce de Krishna, ça. Alors, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance et la compréhension. Si t'as pas la chance, tu l'as pas. Que faut-il dire du reste, là? Et d'avoir justement la compréhension des écritures telles qu'elles sont, sans risque d'être égarées par des commentateurs qui sont pas autorisés. Il y a beaucoup de gens qui, nous, c'est pas notre problème parce qu'on se contente, on se concentre sur les livres de Srila Prabhupada, mais des Bhagavad Gita, en diverses traductions, il y en a. Et il y en a un paquet qui, comme Prabhupada dit, en 200 ans, il y a beaucoup de monde qui ont traduit la Bhagavad Gita. Et Prabhupada expliquait, ça c'est dans l'introduction de Bhagavad Gita telle qu'elle est. Il dit, il y a une dame qui m'a demandé de lui recommander une Bhagavad Gita. Et Prabhupada dit, en toute bonne conscience, je pouvais pas en recommander une seule. Parce que les traducteurs ou les commentateurs ont mis leur propre opinion. Ils ont mélangé leurs opinions, leur interprétation dans la Bhagavad Gita. Ça marche pas, là. Alors, le résultat, c'est que y a personne qui est devenu un dévot en lisant de telles Bhagavad Gita. Mais Prabhupada, lui, présente la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Et le monde devient dévot. Pas tout le monde, mais il y en a assez pour faire un bon nombre pour démontrer que le message, s'il est écouté correctement et suffisamment, le message va passer, le message de Krishna va passer et quelqu'un, s'il arrive à la conclusion de la Bhagavad Gita, c'est qu'il va s'abandonner à Krishna. Il va suivre dans les traces d'Arjuna. Il va s'engager au service de Krishna. Ça, c'est le message de la Bhagavad Gita telle qu'elle est.
J'ai lu d'autres Bhagavad Gita juste pour curiosité, comment ils écrivent, mais il n'y a pas de goût. C'est ça, avec la Bhagavad Gita que Prabhupada a traduit, on voit une substance réelle. C'est comme manger du bio et du non-bio.
Mm.
Le monde, tu les vois, c'est trop philosophique, tu sais, c'est pas donné sur une simplicité pour que tous les êtres, dépendant même de l'intelligence, ils arrivent à assimiler cette Bhagavad Gita-là que Prabhupada a écrit.
Ouais, et je lisais justement hier ou avant-hier, là, que justement Prabhupada décrit dans l'introduction de Bhagavad Gita, justement, que le message de toutes les autres écritures est contenu dans la Bhagavad Gita. Alors, Prabhupada, sur cette base-là, dit, il n'y a pas besoin de lire une autre écriture. Et pour le Srimad Bhagavatam, c'est la même chose. Là, en ce moment-là, c'est Srila Vyasadeva qui dit, il y a tout dans le Bhagavatam, quel est le besoin de lire toute autre écriture? Alors, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, et Prabhupada, en ce qui concerne le mouvement pour la conscience de Krishna, pour lui, c'était vraiment pas vraiment compliqué. Les livres à lire pour les dévots. Il y avait Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Nectar de dévotion, et puis je pense qu'il y en avait un autre, mais il y a Sri Shopanishad. Prabhupada voulait qu'on lise le Sri Shopanishad avant tout autre livre, comme une introduction, parce que le Sri Shopanishad, ça met vraiment la base et ça explique. Quelle est la différence entre la connaissance védique authentique et quelle est la connaissance, mais surtout quelle est l'approche qu'il faut avoir par rapport à la connaissance védique? Qu'est-ce que la connaissance védique dans le sens, est-ce que c'est une connaissance ordinaire ou pas? Alors, Prabhupada, lui, il met les critères dès le départ que la connaissance védique, un, ça vient de Srila Vyasadeva. Cette connaissance védique-là, authentique, non altérée, n'est pas le fruit d'une âme conditionnée. Alors, un autre mot pour décrire les Védas, les qualités des Védas, c'est dit aporusheya. Aporusheya veut dire que ce n'est pas le fruit d'une écriture humaine. C'est pas un homme ordinaire qui a écrit les Védas. Alors, c'est l'incarnation littéraire de Krishna qu'on appelle Śrīla Vyāsadeva. Et lui, il n'est pas sujet aux imperfections, les âmes conditionnées, commettre des erreurs, être sujet à l'illusion, tromper autrui et avoir des sens imparfaits. Il n'est pas sujet à ça. Alors, lui, il est libéré de tout ça et il écrit, sa connaissance est infinie, pratiquement parlant.
C'est comme dans la Srimad Bhagavatam, on a le message qu'est-ce qu'il faut faire dans cette vie. Dans la Bhagavad Gita, qui est beaucoup plus petit, il y a le message. Et dans chaque chapitre, il y a le message. Alors, c'est toujours plus petit, mais c'est toujours le même message. Qui est toute la dans la Bhagavad Gita, c'est un livre. Juste avec ça, on peut se libérer avec la Bhagavad Gita. Mais si on prend une partie de la Bhagavad Gita à l'intérieur, juste avec un, pas tous, mais la majorité, c'est un message. C'est toute la Bhagavad Gita dans un message. C'est comme Krishna, il est d'un tout, mais en même temps, dans un petit, c'est un tout quand même, dans une petite fraction.
Ouais.
Je sais pas si je me trompe, là, mais c'est le feeling que ça me donne quand je lis les petits paragraphes, là, des paragraphes, je dis, wow, tout est dedans. Si tu comprends ça, tu as compris la Bhagavad Gita.
Ouais. Ouais, disons si on prend, c'est pas, si on prend un verset de la Bhagavad Gita et on se dit, OK, on va approfondir le verset, ben, disons, dans le cours de l'approfondissement, il faut que la personne, disons, accepte, ben c'est Krishna qui dit ça. Alors la prochaine question c'est qui est Krishna? Et comme Prabhupada dit, si on n'accepte pas Krishna, ça c'est écrit dans l'introduction de Bhagavad Gita aussi, Prabhupada qui dit, si on n'accepte pas, et ça c'est un des problèmes des commentateurs qui sont pas autorisés à écrire sur la Bhagavad Gita, Prabhupada explique pourquoi. Parce qu'ils n'acceptent pas vraiment dans leur cœur Krishna comme Dieu, la personne suprême. Alors, si l'auteur d'un commentaire n'accepte pas Krishna dans son cœur comme Dieu, la personne suprême, tout ce qu'il peut écrire, ça n'a pas de valeur. Parce que le point de vue est raté. Il va écrire, mais c'est du verbiage. Ça peut pas porter fruit. Alors, si la personne accepte Krishna comme Dieu, la personne suprême, ben, la conclusion naturelle, c'est on est subordonné à Krishna. On doit s'abandonner à Krishna. Et comme Krishna ordonne, même si Krishna laisse la liberté de choix à Arjuna, mais finalement Arjuna lui doit vraiment, disons, allumer, si on peut utiliser ce mot-là, se rendre compte, hey, c'est pas n'importe qui là qui me dit ça, c'est Krishna, c'est Dieu, la personne suprême, l'autorité suprême, et c'est lui qui en fait établit toujours sa volonté. Alors, je dois m'abandonner. Alors, quand le dévot ou la personne est d'accord avec ça, c'est là que commence son bonheur. Le bonheur n'est pas, disons, indépendant de la satisfaction de Krishna. Alors, si Krishna est satisfait, tout le monde est satisfait. Et si Krishna n'est pas satisfait, ben là, y a rien qui puisse être fait pour donner une satisfaction quelconque. C'est aussi simple que ça, là.
Mais les religions aujourd'hui, je vois qu'ils ont peut-être pas sali, mais il y a comme avant, il y avait un Dieu. Maintenant, le Dieu n'existe plus. Maintenant, c'est de l'énergie qui me le monde parle. Pour eux, ils croient plus en Dieu. Mais si tu le dis, mais tu crois que tout est énergie, tu sais, parce que souvent, je demande, tu crois-tu en Dieu? Dis pas vraiment, mais tu crois que tout est énergie, puis on est dans l'énergie d'un tout. Tu sais? Ah là, oui, ça c'est une porte d'introduction, mais Dieu n'existe pas, une personne. Ils ont de la misère à saisir ça.
Oui, mais disons, ça c'est ma réflexion personnelle, là, que oui, ils vont parler de Dieu, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'est Dieu.
Ouais.
Dieu, c'est un concept, la plupart du temps, impersonnel, parce qu'ils n'ont pas de concept. Tu sais, si moi je te dis, toi, tu es une personne, moi, je suis une personne, puis Marie-Joseph à côté, ils sont aussi des personnes. Mais qu'est-ce que tu t'attends de connaître juste leur nom? Ou, si tu es un petit peu intéressé, tu vas chercher naturellement à connaître, ben, qu'est-ce qu'ils ont l'air, où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils font de leur journée. Quels sont leurs passe-temps, quel métier ils font, des trucs comme ça.
Quel genre de personnes qui sont, sont-ils gentils, es-tu intelligent, ou t'es intéressé à savoir des petites choses qui font la personne entière.
Exactement. Alors, si Dieu est une personne, c'est pas évident, ça. C'est vraiment bizarre que le monde n'allume pas que Dieu est une personne. Mais s'il est une personne, ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a l'air? Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses activités? Quelle est sa résidence? Mais ça, la résidence de Dieu, c'est comme inimaginable pour les âmes conditionnées. Ils sont complètement, comme on dit en québécois, ils sont complètement à côté de la traque, là. S'il y avait les autres, je dirais à côté de la plaque. et c'est vrai, l'énergie matérielle est vraiment puissante, que tout le monde est égaré par l'énergie matérielle.
Mais le monde, il parle quand même des qualités de Dieu, qu'il est omniprésent, puis tout ça, puis il est le plus beau, puis tout ça. Mais si on dit ses qualités, c'est que il y a un individu qui les tient, toutes ces qualités-là. Là. Ça peut pas être dans l'espace qui flotte, là, ces qualités-là.
Et c'est ça. Et ils vont dire, par exemple, Dieu est infini. Mais quelle est la forme qui est reliable à dire ça? La forme manque à l'appel. T'sais, tout le monde va être d'accord que Dieu est à l'infini. Dieu est tout puissant. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais là, ils vont dire, OK, ils regardent la nature matérielle. C'est sûr, il y a une puissance dans la nature matérielle. Alors, c'est soit la nature qui est toute puissante ou qui est puissante, mais pas toute puissante parce qu'ils pensent qu'il y a un Dieu par-dessus. Mais c'est flou. C'est pas précis, ces choses-là. Par contre, si on lit le livre de Krishna, là, à ce moment-là, quand on lit le livre de Krishna, là, on va voir que Dieu lui-même, en personne, manifeste sa toute-puissance. Krishna fait des choses qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire. Ça, c'est la toute-puissance de Dieu. Comme, par exemple, une fois, les garçons vachés sont dans la forêt, les vaches sont là, puis d'un coup, il y a un feu de forêt qui se déclare. Puis là, les hommes vachés, ils ont beaucoup d'anxiété disons, pour les vaches, pour les garçons vachés, c'est pas possible. Alors, ils savent qu'ils peuvent venir voir Krishna. Parce que Krishna est leur seul refuge. Alors, ils viennent voir Krishna. Krishna, c'est comme, pour lui, il n'y a rien là. Attends, on va t'arranger ça, il n'y a pas de trouble. Il avale le feu. Il n'y a plus de feu. Et comme c'est dit dans le livre de Krishna, la forêt redevient ce qu'elle était avant. Imagine, là. S'il y a le feu, par exemple, il y a les brûlures tout partout. Ça fait du noir tout partout. Ça sent le feu, ça sent les cendres. Non, Krishna lui avale le feu puis te remet tout ça comme si de rien n'était. Ça, c'est inconcevable.
Mais juste dans cette histoire-là, c'est toute la Bhagavad Gita est dedans. T'es abandonné à Krishna. Tu t'abandonnes à Krishna. Si t'as peur, tu t'abandonnes à lui, il prend soin de toi. Puis, il envole tout le feu. Veut dire, il envole tout le feu, ça veut dire sa puissance. Il y a plein de choses, comme on dit, si on dissèque les choses comme il faut, là. Et dans chaque histoire, c'est un complet. Krishna, il est complet dans tout.
Ouais. Alors, c'est ça. Alors, Krishna est merveilleux. C'est infiniment fascinant. Et ça demande de notre part de ne pas le quitter, mentalement parlant. On doit toujours rester en touche avec Krishna. C'est pourquoi on chante le Saint-Nom de Krishna, pour rester en contact, en touche avec Krishna. Et il faut jamais lâcher. Il faut toujours continuer. Et puis, si on peut dire, si on est pur et honnête, le processus va marcher. On va développer notre amour pour Krishna. Et si on n'est pas, ben là, c'est un peu plate de dire ça, là, mais si on n'est pas pur ou malhonnête, ben, le progrès, si on en a eu, le progrès est retardé pour continuer. Mais si on a zéro progrès, ben, ça va rester à zéro progrès parce que on n'a pas la bonne attitude, là. Je parle en général, là, du monde en général, là. Je ne vise personne en particulier, là. C'est pas mon but. Mais c'est ça pareil. Alors, Prabhupada explique aussi, quand les dévots, ils ont quatre principes à suivre. Et Prabhupada dit, les dévots qui s'abandonnent et qui suivent ces quatre principes-là, Prabhupada dit, doivent être considérés comme des purs dévots. Alors, dans ce sens-là, si on dit, si quelqu'un est un pur dévot, ben Krishna va se révéler à lui. Ça sous-entend qu'il suit des principes régulateurs qui vont le garder dans la pureté. Alors, il évite de cette façon d'être, disons, victime d'activités pécheresses, lesquelles sont incompatibles avec la conscience de Krishna. Alors, ça demande une pureté. Comme Prabhupada dit, la pureté, c'est la force. Alors, plus on est pur, plus on peut résister. Et faut commencer en quelque part. Alors, le début de la pureté, c'est le chant des saints noms, les saints noms de Krishna. Et puis, tout se développe, disons, par la suite, graduellement, quelqu'un va avoir un goût, un attachement pour le chant des saints noms, et ça veut dire pour la conscience de Krishna. Alors, si on dit à un dévot qui a pratiqué le chant et qui avait ce dévot-là une pureté, un attachement à la conscience de Krishna, puis c'est du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui lui dit, t'arrêtes tout ça. Le dévot en question va dire, hey, va te faire cuire un chapati en quelque part, là. Et moi, ça va continuer. Parce que le cœur est changé. T'sais, tout le monde marche avec son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Ça détermine la conscience, les activités de la personne. Alors, si une personne est attachée à la conscience de Krishna, tu peux pas la détourner facilement, cette personne-là. Et en fait, elle ne devrait pas être détournée pour tout l'or au monde. Alors, c'est pourquoi dans les religions qui sont une forme de la conscience de Krishna, dans une certaine forme, ben les gens qui sont vraiment, disons, enracinés, tu peux pas les déraciner. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
Alors, des gens, disons, dans les débuts de la chrétienté, il n'était pas question d'arrêter de ce qu'ils venaient de mettre en pratique. Les premiers chrétiens qui ont vu Jésus, qui l'ont entendu, qui lui ont parlé, qui l'ont peut-être même touché avec des accolades, etc., qui ont mangé avec lui. Puis là, ils sont convaincus de la personnalité même de Jésus. Ces personnes-là, tu peux pas leur enlever ça. C'est un acquis qui fait d'eux autres des personnes qui sont comme aujourd'hui, ils disent les témoins de Jéhovah, mais ça, c'est les témoins de Jésus. Ils témoignent de Jésus. Voilà. Alors, les dévots de Krishna, donc, des fois, tu as affaire à côtoyer, veux pas, mettons, des membres de la parenté, par exemple. Ils savent que tu es un dévot de Krishna, mais ils n'ont aucune idée qu'est-ce que ça veut dire être un dévot de Krishna. Parce que pour eux autres, c'est un mystère. C'est pour eux autres, ah ben ça, c'est sa religion. Et ça va pas plus loin que ça. Tu sais, il n'y a pas de point commun. Vraiment, vraiment. Tu sais, entre dévots, il y a des liens d'amitié. Mais avec les non-dévots, dévots et non-dévots, il manque la conscience dans le milieu. Il n'y a pas de point commun avec la conscience.
Et ce qu'on vient de lire en ce moment, que dépendant de notre concept, notre niveau de conscience, Krishna se présente à nous. Alors, toutes les religions, le monde, ils peuvent jurer que c'est la meilleure religion. Ils vont mourir pour ça. Les musulmans, même les ceux qui adorent le côté diabolique, là, sont prêts à mourir. Alors, ça, c'est juste avoir dans l'esprit leur concept de Dieu. Ils sont rendus là.
Oui. Ah, c'est pourquoi c'est dit. Et je lisais ça ce matin, là. J'étais en train de travailler sur une révision de Upadeshamrita mantra numéro 3, et dans lequel Prabhupada décrit, il y a des dévots, et là on parle en très général, des dévots qui sont sous les modes, les gunas, sont influencés par, leur service de dévotion est teinté, influencé par les gunas de la nature matérielle. Il y en a qui pratiquent le service de dévotion dans le guna de l'ignorance, d'autres dans la passion et d'autres dans la vertu. Et ça, c'est des réalités. Alors, Prabhupada décrit justement quelles sont les caractéristiques du service de dévotion dans l'ignorance, dans la passion et dans la vertu. Et dans l'ignorance, justement, il y a la colère, il y a l'arrogance de se penser meilleur que tous les autres, disons que leur religion est meilleure que les autres. Et ça, c'est une caractéristique du mode d'influence de l'ignorance. Oups, c'est parti. Bon, Madhavananda n'est plus là. On va attendre un petit peu.
Hare Krishna, Prabhu, ça a coupé. Ça a coupé ici.
Ouais, je vois ça. Et là, mon image n'est plus là. Attends une minute, on va essayer de voir ça. Ah bon, là, là. OK.
Moi, non, c'est là.
OK, c'est pas grave.
OK.
Alors, c'est ça. Mais des
ben,
gens...
vous parlez de... vous avez lu ce matin sur... Et sur Panissade, quelque chose, non? Puis ça a coupé là.
Ouais. Ben, justement, qu'il y a des dévots qui font du service de dévotion, mais leur service de dévotion est influencé par les modes de la nature matérielle.
Oui.
Alors, l'ignorance, la passion, la vertu. Et ça, c'est décrit par dans le Srimad Bhagavatam, par le Seigneur Kapila Dev, dans le troisième chant de Srimad Bhagavatam. Alors, il y a un chapitre, je pense, qui s'intitule le service de dévotion selon les modes de la nature matérielle. Et on retrouve aussi dans la Bhagavad Gita, c'est le chapitre 14. Attends, c'est ça? Chapitre 14. Soit 14, soit 17. Non, c'est chapitre 14, c'est ça. Les trois gunas de la nature matérielle. Alors là, c'est décrit les... Regardez ça, 14. C'est décrit justement le bonheur. C'est ça, les trois gunas. C'est chapitre 14 de la Bhagavad Gita. Alors, tout ce qu'on a, disons, l'essentiel qu'il faut savoir en ce qui concerne les trois gunas, ben, c'est Krishna qui le donne dans le chapitre 14 de la Bhagavad Gita. Dont les nombreux versets qui parlent de ces trois modes de la nature matérielle-là. C'est, mettons, plus que bon de s'en souvenir, parce qu'on va le voir dans la vie de tous les jours, ça. Alors, les comportements, les pensées d'autrui, des autres personnes, mais aussi soi-même. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas sorti du bois, comme on dit. Alors, il faut se regarder aller, puis prendre les instructions de Krishna, puis faire le point, puis essayer de suivre plus tôt, au lieu de suivre juste ce qui nous passe par la tête, essayer de focaliser sur le comportement, les enseignements des âmes réalisées. Comme par exemple chez le Prabhupada, qui, je parle de disciples de Prabhupada, là, qui ont eu la chance de voir chez le Prabhupada en personne, de le côtoyer, pour un petit peu de temps. Que faut-il dire? De beaucoup de temps, mais que faut-il, disons, lors d'une visite ou d'un service à faire à Prabhupada en personne et d'écouter des classes en personne, en présence de Prabhupada. Déjà là, c'est très, très indicateur de la nature ou d'un pur dévot de Krishna. Il y a rien qui égale, disons, qu'on connaisse dans notre expérience de vie matérielle, la présence, si on peut dire, d'un pur dévot. Évidemment, Prabhupada va dire, il y a deux façons de s'associer avec un pur dévot. C'est Vani et Vapu. Vani, ça veut dire en personne. Puis Vapu, ça veut dire ses instructions. Et comme Prabhupada disait, à quoi ça sert d'avoir le Vapu si on met pas Vapu, attends une minute, c'est ça, Vani, Vapu. Vani veut dire les instructions en pratique. Le maître spirituel, lui, il est pas là pour parler pour juste pour faire du vent, là. Il est là pour la mission du pur dévot de Krishna, c'est de libérer les âmes conditionnées. Ça, c'est sa mission. Alors, ce matin même, je lisais, ça c'est sur dandavat.com, là, un dévot qui s'appelle Haridas Das. Son nom, comme Haridas Thakur, là, son oui, nom oui. De dévot. Haridas. Il écrit, il a rencontré Prabhupada en 1965.
Le début.
Et Prabhupada, en 65, il allait à une société de yoga qui s'appelait Ananda Ashram, quelque chose comme ça. Il avait été, je pense, invité, ou il avait été là, Prabhupada. Puis il y avait un autre gourou là-bas. Et lui faisait une conférence avant Prabhupada. Puis Prabhupada a eu son tour de parler lui aussi à ce moment-là. Puis ce garçon-là, Haridas, il a écouté Prabhupada, puis il sentait que ça faisait vraiment du sens ce que Prabhupada disait. Puis, alors Prabhupada, lui, il demeure dans l'ashram. Ils ont donné une petite pièce pour Prabhupada. Et lui, ce garçon-là, Haridas, lui aussi avait une pièce. Alors, il était en train de lire un livre. Et là, il sent qu'il y a quelqu'un qui est dans l'entrée de sa chambre, dans son dos. Il a servi de bord. Puis c'est Prabhupada qui est là. Imagine Prabhupada qui vient dans la chambre de ce garçon-là. Puis Prabhupada lui parle. Puis ce garçon-là, il dit, Prabhupada a répondu à toutes les questions que j'aurais pu avoir sans même que j'aie eu à lui demander.
C'est une grâce.
Oui. Ça, c'est spécial, pas à peu près. Et Prabhupada, lui, tu liras ça là, dans Dandavat, c'est frais d'aujourd'hui, là.
Okay.
Cette histoire-là. C'est une des... Moi, j'ai vu ça, c'était la première que j'ai vue ce matin. Et c'est vraiment... C'est beau. C'est vraiment extraordinaire. Et lui, il raconte justement, disons, tu as le wording là, dans ses mots à lui. Qu'est-ce que Prabhupada lui a dit. Et c'est comme si Prabhupada est venu. Donc, essaie de te figurer le portrait de la scène, là. Prabhupada est venu dans sa chambre. Et puis, c'est Prabhupada qui est en train de vraiment lui prêcher. C'est sa mission qui commence, on dirait. Alors, Prabhupada s'est dit, Prabhupada a dû voir ça, c'est une âme qu'il faut que j'essaye d'aider à devenir consciente de Krishna. Puis, il a réussi. Et ce garçon-là est devenu un dévot. Et ça, c'est...
Tout est arrangé par Krishna tout le temps, parce que Krishna, c'est l'écrivain, le producteur, le réalisateur, le directeur et l'acteur. C'est incroyable. C'est incroyable.
Exactement. C'est... Si on peut dire, là, c'est du Krishna tout craché, là. Si on peut dire ça, là. Et il y a la main de Krishna, c'est sûr, là-dedans. Puis Prabhupada, il était un instrument pour délivrer cette personne-là, qui est devenue un dévot.
Et pour qu'on en parle aujourd'hui aussi. Je veux dire, ça continue, c'est pas arrêté.
Exactement. Et ça, c'est merveilleux. C'est extra. En 65, Prabhupada n'avait même pas incorporé encore ISKCON.
C'était à New York ou à Boston?
C'était le Ananda Ashram. Ça se trouve à 1h30 de New York, de la ville de New York. C'est en campagne. C'est en campagne, okay. La place. Et... C'est extraordinaire, ça. Un divertissement de Prabhupada.
Mais j'ai marqué, ça c'est ma propre sensation, que la saveur de juste de penser à Prabhupada ou ses écritures prend un goût plus profond avec le temps. C'est qu'on voit, on réalise que c'est pas un homme normal, c'est pas une personne normale. Puis tout ce qu'il fait, c'est comme Jésus-Christ, tu veux dire, c'est comme un autre totalement différent, veux dire, comme c'est le même message mais apporté d'un autre angle, tu sais, pour la génération d'aujourd'hui, pour notre état de pensée et tout ça. Chaque apparition ou en voie spéciale de Krishna, c'est fait pour le temps de comment ça se passe, ça.
Exactement. C'est exactement ça. Selon temps, circonstances et individus. Comme c'est des, dont Jésus et Srila Prabhupada, c'est des Shaktyavesh avatars, là. Ils sont mis en pouvoir par Krishna pour accomplir une mission, en particulier. Et, dans le cas de Srila Prabhupada, mais même dans le cas de Jésus, c'est quand tu regardes ça, là, oui, tu peux, disons, superficiellement passer un jugement, à savoir, ben, les chrétiens, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et là, ça va plus dans le négatif que le positif, mais, ou il peut y avoir du positif, mais, indépendamment de ça, quand tu regardes la portée, jusqu'à quel point la venue de Jésus a influencé et continue d'influencer un paquet de personnes, un paquet d'âmes conditionnées, ben c'est extraordinaire. Et dans le cas de Srila Prabhupada, lui aussi, c'est la même chose. Des millions et des millions de livres distribués depuis qu'il est venu, et ça continue. Les dévots distribuent des tu sais, à chaque année, là, au marathon de Noël, avec Vaisheshika qui mène la charge, calcule, dans tous les pays ensemble, on distribuait combien de livres? Puis là, ça va dans les millions de livres.
Des millions.
Ouais, des millions de livres.
Ah ouais.
Et là, l'année d'après, ils essayent de suivre l'instruction de Prabhupada, qui, Prabhupada, à un moment donné, on lui a dit, ah, au marathon de Noël, on a distribué tant de livres. Et là, Prabhupada, tu sais qu'est-ce qu'il a répondu?
De plus cette année.
Prabhupada a répondu « double it », de doubler pour l'année d'après. Alors, les dévots, c'est tellement simple, la réponse de Prabhupada. Il n'y a pas eu besoin, tu sais, de justifier. C'est d'élaborer, OK, cette année, on en a fait, mettons, 5 millions. L'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire pour faire 6 millions? Non. Prabhupada, tout ce qu'il a à dire, c'est double it. Doubler ça. Et les dévots qui sont responsables de la distribution, l'impression, la distribution des livres, le recrutement de dévots pour distribuer des livres, tout ça. Ça, c'est à eux autres de s'occuper des détails pour arriver. Pour arriver à doubler l'année d'après, c'est merveilleux. Ça prend la vision justement de et la puissance d'un pur dévot. Il y a juste à dire ça. C'est comme on dit là, ses désirs sont des ordres. Dans le cas d'un pur dévot comme Srila Prabhupada, c'est exactement ça. T'sais, les dévots qui, comment on peut dire qui savent c'est quoi le désir de Prabhupada et qui veulent satisfaire son désir. Alors, comme par exemple le temple à Mayapur, c'est un désir de Prabhupada d'avoir un grand temple. Il en a parlé aux dévots, il avait une vision et Prabhupada le pauvre, il a pas vu ce grand temple-là en construction, où ce n'était que...
Je pense qu'il avait planté une roche ou une pelletée, quelque chose comme ça, là, qu'il avait commencé, là.
Ouais. Il l'a pas vu, mais il avait l'idée pour, par exemple. Puis les dévots, ça leur a pris un nombre d'années à méditer là-dessus, puis à faire des plans, on le fait comme ça, on le fait pas comme ça. Tu sais, ça leur a pris du temps à enligner leur flûte, là, comme on dit, pour finalement arriver un plan, puis on s'en va par là, puis on le fait. Et aujourd'hui, ça se concrétise, et je pense dans 2 ans, là, que ça va être vraiment comme ils ont fait le tour, là. Ça va être l'inauguration, là.
Initiale,
officielle, là, vraiment, le temple est construit au complet, là. Et ça, des projets comme ça, là, ça réunit les dévots. Ça fait une union des dévots. Tout le monde rame dans le même sens, là.
Et tout le monde a participé financièrement, tu sais, quelque chose. Je me rappelle que les dévots faisaient le tour de toutes les temples pour qu'on achète un pied carré ou un mètre, là. Tu veux dire, c'était temps, là, puis, c'est quand même abouti, là. Puis, Ford, là, le petit-fils de Ford, qui a donné un gros montant, lui, je pense, comme 15 millions, là, il avait
Non,
donné.
plus que ça, 80
What?
millions.
80 millions, wow!
Oui. C'est ce que j'ai compris, là. Alors,
Ah, ça se peut, il doit être des milliards. C'est quand même... Mais c'est Krishna qui l'a mis là, là. Tout était planifié, là.
Oui,
Ça arrive comme
exactement.
ça.
Oui, la grâce de Krishna.
Ouais.
Bon, Madame Ananda, on va mettre fin au cours pour que ça ne me tente pas de continuer.
Ben, on se voit l'année prochaine.
Oui, on se voit l'année prochaine.
Samedi prochain, oui, ça marche pour samedi prochain ou on saute un samedi?
On saute le samedi, le 3, on va le sauter.
OK.
Et on va reprendre ça le 10 pour le cours de Chopin-Chat. Mais les cours de mercredi, ça continue.
OK, parfait.
Ça continue à 19h. Mais on va laisser. Bon.
OK.
Le cours d'aujourd'hui aurait dû être le 3, mais ça, c'est mon erreur. Alors, on va sauter le 3, puis on recommencera le 10 pour le Ishopanishad.
Parfait. Je vais le marquer
Voilà.
dans l'agenda. Mais merci
OK.
beaucoup pour votre patience de m'accueillir tout seul.
Ah, ben disons, c'était Srila Bhaktisiddhanta, lui, il aurait dit, OK, s'il n'y a personne, fais-les pour les murs. Alors, on le fait pour la vibration dans l'espace. Et les autres ont dû manquer leur coup pour venir parce que je pense qu'ils seraient venus. Et bon, c'est dommage.
C'est comme ça, c'est comme ça.
C'est ça. On va accepter ça comme ça aujourd'hui. Alors, merci beaucoup.
Merci à vous.
Hare Krishna.
Hare Krishna et bonne année à l'année prochaine.
Oui, toi aussi, bonne année
Merci.
à l'année prochaine.
Hare
Allez, allez,
Krishna.
bon,
Allez,
jai.
bon.
Allez, bon, jai. Alors, voilà. Ça. Participant. Thank you for all.